écoutez IDFM, il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le métier bonjour. Le soleil aux merveilles sublime les faubourgs. Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour belle Athénienne.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf. Qui glisse sur la pente, tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde Calimera. Bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci? Ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sept protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, chère baronne.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre Starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Good napic. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut le ciel attique. Bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci? Ne sont-ils plus que formules? Nos bonsoirs, ces protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Déjà la rue se vide sous les lampions éteints, et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples enflammés s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julo.
Bonne nuit, juge intègre, votre bourreau demain pendra le pauvre nègre.
Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants, belle señorita. Buenas noches.
Good night.
En grec,
Kalinikta.
Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant.
Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour voisins. Aujourd'hui, spécial question animale, spécial sur les animaux, animé par Pascal.
Bonjour.
Et moi-même, Brigitte, qui sommes de l'association L214, une association de protection animale que vous pouvez retrouver sur internet sur www.l214.com et évidemment sur Facebook. En tout cas, merci à Radio Anguin de nous ouvrir chaque mois ainsi son antenne. Le thème de l'émission d'aujourd'hui va s'intéresser aux cochons. Les cochons, animaux très connus, les trois petits cochons, etc., etc. Mais on va plutôt s'intéresser aujourd'hui essentiellement aux animaux qui sont gardés dans les élevages et qui sont destinés à finir en saucisses, jambon, etc. jusqu'à ce que le monde change. Notre invité par téléphone aujourd'hui sera Jean-Michel Gédrazac, qui est président de EVES, c'est l'association Intervillage pour un environnement sain, et c'est une association qui se bat actuellement contre un projet d'extension d'une porcherie industrielle dans le Pas-de-Calais. Donc on le retrouvera tout à l'heure. Mais pour commencer, comme chaque émission, une histoire racontée par Pascal.
Oui, il s'agit d'une histoire qui se passe aux États-Unis. Dans un zoo, un cochon est récemment venu en aide à un chevreau qui luttait pour sortir de l'eau. En voyant ce chevreau prisonnier au milieu de l'eau, ce cochon a dû se sentir obligé d'intervenir. Tel un véritable héros, le cochon a nagé jusqu'à l'animal en détresse, pour le secourir. Ce bon samaritain n'a pas hésité à venir en aide à cet animal d'espèce différente qui était loin d'avoir ses capacités en natation. Pour délivrer le chevreau, ce maître nageur l'a poussé hors de l'eau et l'a escorté jusqu'à la terre ferme. Le chevreau semblait s'être aventuré un peu trop loin dans la rivière et effrayé, il n'avait pas pu en sortir seul. On peut donc saluer cet acte de grand courage et totalement désintéressé du cochon pour ce chevreau. Maintenant, nous allons écouter le témoignage d'un petit garçon qui a vu le film Babe, dont vous avez certainement entendu parler.
Parmi mes films préférés, il y a un film qui s'appelle Babe. Ce qui m'a plu le plus dans ce film, ça a été que le fermier, Monsieur Arthur Hoggett, avait un petit cochon qui s'appelait Babe, qu'il avait gagné dans un concours. Oui, je sais, dans un concours. Et un soir, le cochon demanda où est ma maman. Et une chienne, la chienne, une bergère, oh non pardon, pas une bergère, un chien, un berger allemand, un chien qui dresse les moutons, que Monsieur Arthur Hoggett avait, lui a dit, qu'est-ce qu'il y a mon chou, tu cherches ta maman? Et Babe lui répondit à un moment donné, oui, je cherche ma maman. Et Babe dit, où est ma maman madame? Et cette dame lui dit, écoute, malheureusement, les cochons sont mangés par des êtres humains. Et ta maman a été sûrement, elle aussi, mangée. Où est ma maman? Alors, si tu veux, je peux être un peu ta maman pendant quelques temps. Et à un moment donné, soudain, le cochon se mit dans les bras de cette chienne et l'embrassa. Et cette chienne la lécha comme son fils. Le lendemain, les fils et les filles de cette belle chienne étaient venus et disaient « C'est quoi ta race à toi? Pourquoi t'es rose? Pourquoi t'as une queue comme ça ?» Plein de petites questions de ce genre. Et puis c'est tout. Ce qui m'a plu le plus dans ce film, c'était les sentiments qu'il adressait. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire le sentiment qu'il adressait? Ce film, tu parles du sentiment que ce film adresse?
Oui, il adresse.
Exprime,
oui, oui, il adresse. Enfin, d'une façon ou d'une autre, il me prouve des sentiments. Il a des sentiments. Il montre un peu, pas exactement dans la réalité, mais il montre ce qu'un animal peut ressentir lorsqu'il est séparé de sa maman dans un abattoir.
Et tu crois vraiment à tout ça?
Oui, je
Parce
crois.
Parce que ce film montre.
Oui, mais il y a aussi certaines choses qui ne sont pas réelles. C'est juste un film pour les enfants qui explique des choses, qui montre des choses et tout.
Oui, je me souviens que tu m'as dit que c'est pour ça que tu crois que la fin est heureuse dans ce film. Comme dans les films pour les enfants, tu dis.
Oui, la fin est heureuse, mais dans les élevages et tout, la fin n'est jamais heureuse. Très rarement.
C'est ça ce que tu m'as dit. Oui, je m'en souviens. D'accord, ben, je te remercie Anatole.
De rien.
Et merci Victoria pour cette interview donc d'Anatole qui a 8 ans et qui a vraiment apprécié le film Babe, tout en y reconnaissant qu'il y avait des choses qui n'étaient évidemment pas correspondantes à la réalité, mais qui montraient déjà bien que les cochons sont capables d'émotions, et en ça, il s'est pas trompé. On va donc s'intéresser aujourd'hui aux cochons. Les cochons qui, comme les sangliers, sont des animaux sociaux, vivant en harde, diurnes, mettant au monde des portées nombreuses quand ils sont dans la nature. Leurs groupes sont hiérarchiques, une hiérarchie stable au cours du temps qui est basée sur le poids des animaux. Le plus gros est celui qui dirige. Les conflits sont dès lors très rares. S'ils vivent en groupe, ils ont aussi besoin de pouvoir se retirer. Contrairement à ce qu'on peut penser, les cochons ne sont pas des animaux sales. Ils défèquent dans un espace qui est séparé de leur espace de sommeil quand ils en ont la place. Donc quand ils sont libres d'aller où ils veulent, ils séparent bien leurs espaces. Et l'espace de repos, lui, est propre, sec et moelleux. Ils s'y allongent alors sur le côté lorsque la température est suffisante. Ils se serrent les uns contre les autres lorsqu'il fait froid. Ils sont omnivores et passent une grande partie de leur temps à explorer, à fouir, à chercher de la nourriture. Ils parcourent ainsi plusieurs kilomètres par jour. Les truies, elles, se construisent des nids avant leur mise bas et se tiennent alors à l'écart du groupe. C'est une activité intense pour elles, aussi importante que de s'alimenter. Dans le nid ainsi créé, elles peuvent se tourner. Elles restent exclusivement avec leurs petits jusqu'à leurs 2 semaines. Ensuite, elles rejoignent leur groupe. Le sevrage n'intervient qu'au bout de 3 à 4 mois. Alors que dans les élevages, elles sont séparées en moins d'un mois. On y reviendra plus tard, la vie des truies qui n'est pas tellement drôle. Et toi Pascal, t'as trouvé une histoire où justement des cochons sont retournés entre guillemets à l'état sauvage?
Oui, en effet, c'est une histoire de cochons qui vivent seuls sur une île aux Bahamas. L'île aux cochons, ou Big Majorquais, est dotée d'une source d'eau naturelle. Elle est abritée par un chapelet d'îles voisines qui la protège des vagues provoquées par les tempêtes tropicales. Et sur cette île, des cochons ont été introduits par des marins de passage qui pensaient qu'ils en feraient une bonne source de nourriture. Cependant, les marins ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, tous les cochons vivent par et pour eux-mêmes avec l'aide des plaisanciers. En effet, les cochons nagent pour récupérer en partie l'excès de nourriture des yachts qui passent au large. Cette histoire est encore une preuve que les animaux ont leur propre intelligence et trouvent des solutions à leur survie.
Et oui, alors que dès qu'on s'intéresse à l'élevage, on s'aperçoit que les porcs sont maintenus nombreux dans des espaces nus et extrêmement réduits. Impossible d'y parcourir des kilomètres et d'y mener des activités variées comme le font spontanément les cochons. Ici, on a vu que les cochons pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher leur nourriture. En tout cas, ils vivent leur vie. Avez-vous déjà poussé la porte d'un élevage? Êtes-vous déjà entré dans ces lieux-là? Avez-vous déjà senti cette odeur? Avez-vous déjà croisé des regards de cochons? Eh ben, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Et déjà, Pascal, tu vas nous parler de la taille des élevages. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, en fait, si les élevages sont dits familiaux en France, il n'en reste pas moins intensif. Plus de 95% des porcs ne fouleront jamais le sol extérieur et seront gardés sur caillebotis de leur naissance à leur abattage. Les caillebotis sont des sols ajourés qui permettent aux excréments de s'évacuer. Le lisier est ensuite récupéré dans des fosses et est utilisé en épandage. L'ensemble du lisier breton représente l'équivalent des excréments de la population française. La Bretagne, qui réalise 50% de la production porcine française et qui concentre également d'autres élevages, connaît le problème des algues vertes, comme tout le monde le sait. C'est la première région émettrice d'ammoniac, responsable des pluies acides. D'après la filière, les élevages français comptent en moyenne 170 truies par élevage. Certains élevages comptent toutefois plus de 500 truies.
Et nous allons bientôt recevoir donc Jean-Michel Gédrazac après la pause musicale qui va nous raconter l'histoire de son village dans lequel est prévue l'extension d'un élevage. C'était Open Your Eyes de Goldfinger. Je reçois donc tout de suite Jean-Michel, président de l'association Intervillage pour un environnement sain. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, notre émission d'aujourd'hui nous porte sur les cochons et voilà, bah, nous savons que votre association se bat actuellement contre une extension dans votre village, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, donc c'est un projet, on dit extension, en fait c'est une nouvelle porcherie, hein, puisque l'on passe d'un tout petit élevage à un élevage avec 4500 porcs en permanence présents sur le territoire de Ringhem. Donc extension, c'est un petit peu un petit euphémisme. Et c'est un projet donc assez important, c'est la quatrième porcherie industrielle de ce type-là dans la région Nord-Pas-de-Calais, et c'est vraiment quelque chose de gigantesque pour nous. Bien sûr, il existe des porcheries identiques en Bretagne, mais dans notre région, on n'est pas habitué du tout à ce genre d'industrie, en fait. Hein. Pour nous, c'est quasiment une industrie.
Oui, il y a pas mal de projets en ce moment. Alors, dans les actualités et tout ça, on essaye de nous faire croire que l'élevage en France, c'est de l'élevage familial, que ce sont des petits élevages. Or, il y a un projet de poulailler de 10 000 poules, de 10 000 poulets sur Berck-sur-Mer. Il y a le projet Ramery des 1000 vaches, très loin dans la Somme. Plus ce projet-là, effectivement, d'une porcherie de 4500 bêtes. Est-ce que, de votre côté, vous avez le sentiment que ce sont des projets isolés ou que c'est une volonté politique de concentrer les animaux encore davantage que ce qu'ils sont, parce que même une petite porcherie, tout de même les animaux ne sortent pas à l'extérieur, corrigez-moi si je me trompe, mais...
Non, ils ne sortent pas. Actuellement, la porcherie de Ringhem qui existe, les cochons ne sortent pas à l'extérieur. Le bien-être animal n'y est pas quand même. Oui, pour moi, c'est une politique qui est organisée. C'est la politique de la FNSEA qui veut actuellement développer ce genre d'élevage industriel. Avec la bénédiction, malheureusement, du ministre de l'Agriculture, Monsieur Le Foll. Monsieur Le Foll veut créer ce genre d'industrie à grande échelle au niveau de la France. Ils en prévoient d'en créer de multiples pour rattraper, paraît-il, le retard que l'on aurait.
Oui, alors qu'on a, enfin, au cours de cette émission, et puis par notre association et par le site viande.info qu'on développe avec l'Association Végétarienne de France, on s'est bien rendu compte que même si on n'est pas pour l'abolition de la viande, il était quand même nécessaire, même sur d'autres pans que le pan éthique, qui pourtant est un pan très très important qui devrait être pris davantage en compte, il serait nécessaire de réduire la production et la consommation de produits d'origine animale si on voulait réduire les impacts sur l'environnement, sur la santé, sur le partage des ressources. Oui. Vous-même, vous êtes médecin ?
Voilà, tout à fait, je suis médecin, et au niveau médical, c'est certain qu'on estime de plus en plus que la viande en France est trop carnée, on mange trop de viande en France. La viande de porc, en plus, c'est quand même plus grasse, par exemple la viande de bœuf, la volaille ou les poissons, et c'est ce genre d'industrie que l'on favorise actuellement, ce qui est pour nous une totale aberration. Les maladies cardiovasculaires dues à la charcuterie, dues au gras dans le porc, etc. C'est quand même une des premières causes de mortalité en France, surtout si c'est associé au tabac, à l'alcool, etc. Mais c'est certain que l'alimentation carnée, surtout en viande de porc, pour la santé, c'est un problème. C'est un problème. Et c'est ce qu'ils veulent malheureusement développer.
Et oui, parce que c'est un marché, c'est un marché économique important. Il y a des histoires de gros sous en jeu. Quand est-ce que vous avez créé l'association ?
Alors notre association Eve est créée depuis un peu plus d'un an exactement. On est né le 17 mars de la fusion de deux collectifs, la porcherie de Ringhem, donc est à cheval avec les terrains d'épandage sur deux villages, et il y avait un collectif dans chaque village. On s'est fédéré, on a créé cette association qui a pour but pas simplement la lutte contre cette industrie porcine, mais qui va se battre plus tard pour un environnement sain. On élargit un petit peu notre champ d'action. C'est pas simplement une association contre une porcherie. Mmh. C'est une association pour un environnement sain et pour essayer de développer aussi localement le bien-être animal que l'on a pris en compte dès le départ dans notre combat. Ah, et super. De plus en plus actuellement.
Oui, c'est une... Alors en même temps, on voit des élevages se développer qui sont de pire en pire pour les animaux, et en même temps, c'est vrai qu'on voit des collectifs qui se développent en face, qui luttent, effectivement, qui sont des associations souvent de riverains, mais qui prennent en compte cette donnée importante que sont les animaux qui sont finalement les premiers touchés par ces...
Oui, tout à fait. Tout à fait, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une porcherie industrielle de ce type. Hein. Ce sont des bêtes, d'abord, qui ne voient jamais le jour. Elles naissent dans cette porcherie. Dès que les animaux sont sevrés, c'est-à-dire en général vers 28 jours, cet animal part dans une espèce de cage, dans un box, qui fait 0,65 m², et puis il n'en bouge pas jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait ses 110 kilos. Et de là, donc, on le sort du box, on le met dans un camion et il part à l'abattoir sans que la bête n'ait vu le jour, sans qu'elle puisse ne serait-ce que bouffer, se retourner. C'est absolument... C'est de la maltraitance à la limite, hein, quand même.
C'est ce qu'on appelle, nous, la maltraitance structurelle, c'est-à-dire absolument, que la structure elle-même ne permet absolument pas... Quand les politiques se mettent à parler de bien-être animal, souvent, ils parlent exactement de l'inverse, quoi.
Oui, de toute façon, oui, je pense que le bien-être animal, c'était passé de 0,58 à 0,65 m² pour les box. Bon, je pense pas que le cochon, il sera plus à l'aise dans 0,65 m² que dans 0,58. C'est ce qu'ils appellent le bien-être animal. Mm-hmm. Bon, ça, c'est y jouer un petit peu sur les mots. Le bien-être animal, on est très, très, très loin du compte. Hein.
Ouais.
Et dans certains pays, bon, je pense que c'est en Suisse, par exemple, il y a eu obligation pour tout élevage que les animaux puissent sortir à l'extérieur au moins une à deux fois par jour, je pense. Et c'est ce qu'il faudrait essayer de faire, une loi en France qui oblige les éleveurs à ce genre de choses.
Oui, à minima.
C'est l'objectif un petit peu de la lettre que l'on a fait, la lettre interassociative, qui a été signée quand même par pas mal d'associations et que l'on a transmis au ministère de l'Agriculture.
Mm-hmm.
Ça a été signé avec des organismes comme Novicen, hein, vous parlez des vaches, donc cette association là également. Beaucoup d'associations liées à France Nature Environnement qui nous ont soutenus, ainsi que la Ligue protectrice des oiseaux qui nous ont bien aidés aussi.
Ouais, super.
Et c'est vrai que de plus en plus, je pense, les gens prennent conscience de la maltraitance animale au niveau de ces élevages intensifs.
Mmh. Quels sont, à part donc cette lettre interassociative que vous avez adressée au ministre de l'Agriculture, quelles sont les actions entreprises? Moi, j'avais vu passer des articles dans les journaux où vous aviez planté des centaines de panneaux à l'entrée des villages,
oui,
par exemple.
Oui, tout à fait. Le jour de la Journée mondiale de l'eau, on avait mené une belle action, hein, avec 100 panneaux blancs, avec dessus marqué « Demain, nos eaux polluées », parce que c'est certain que 4500 bêtes dans notre région, qui est très spécifique, on a une région très humide, où les eaux de surface sont très superficielles, donc dès que vous mettez du lisier, ça risque de stagner en surface. On a une région où il y avait des anciennes cressonnières dans le temps, donc très très humide, où les terrains sont drainés. Et c'est certain que mettre du lisier dans des terrains humides comme ça, ça va entraîner une pollution très rapide, tout ce qui est eau de surface.
Mm-hmm.
Et qui est pollution des eaux de surface, dans un premier temps, dans un second temps, ce sera la pollution de notre nappe phréatique sous nos pieds. Nappe phréatique qui est le réservoir d'eau du Pas-de-Calais, de la région de Dunkerque, de certaines parties de la Belgique. Et c'est notre nappe phréatique alimente aussi des industries agroalimentaires, comme par exemple Coca-Cola et Bonduel, qui viennent puiser l'eau chez nous.
Mmh.
Et on a peur, pour moi c'est une certitude de toute façon, que la pollution des eaux superficielles par cette porcherie industrielle engendrera une pollution assez rapide de notre nappe phréatique. Notre nappe phréatique qui est déjà d'ailleurs contaminée par des nitrates, en quantité modérée certes, mais quand même, et surtout par du perchlorate. Le perchlorate, on vous avait peut-être entendu parler. Donc ça prouve que notre nappe phréatique, contrairement à ce que disent les ingénieurs hydrogéologues, n'est pas du tout à l'abri de pollution des polluants de surface comme le lisier.
Oui, enfin ce serait l'exception, effectivement. On a bien vu ce que ça donne en Bretagne, cette concentration d'élevage. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à récupérer les nappes phréatiques. Ils ont le problème des algues vertes. Donc,
oui, absolument.
C'est plus à prouver. Enfin, ça a déjà été fait, malheureusement.
Oui,
donc,
mais malheureusement, la FDSEA, la FNSEA, local, enfin, au niveau national, ils sont toujours à réfuter que la pollution vient de ce type d'élevage. Or, nous, on pense, avec la Confédération Paysanne, qu'il y a un autre type d'élevage plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du bien-être animal, qui est tout à fait possible.
Mm-hmm.
Qui est tout à fait possible, mais je répète encore une fois, notre ministre de l'Agriculture n'a pas l'air de s'orienter vers ce genre de choses.
Oui, alors qu'on avait un petit espoir avec le changement.
Voilà, tout à fait. Ben, moi,
mais pas du tout.
J'avais un grand espoir, c'était pas un petit. J'avoue que j'étais terriblement déçus. Dans les mots, certes, ils nous disent qu'ils vont favoriser tout ce qui est agriculture, ils vont protéger l'environnement, etc. Mais on voit que dans les faits, que ce soit au niveau des crêts nitrates, que ce soit au niveau des subventions qu'ils accordent aux élevages industriels, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'ils s'orientent. Là, ils veulent créer des porcheries avec méthanisation associée, où le consommateur va payer une électricité au prix fort pour que les porcheries soient rentables, en fait, parce qu'actuellement, les porcheries en France, comparées au prix du porc qui vient de Roumanie ou d'ailleurs, bon, c'est certain qu'ils n'arrivent pas à concurrencer les tarifs de ces pays-là. Donc, l'agriculture porcine en France ne vivra quasiment que de subventions, sans subventions. De toute façon, ils ne pourront pas s'en sortir.
Oh bah, il n'y a aucune protection.
Le prix du porc se fera ressentir dans certaines régions sur le prix de l'électricité que le consommateur va acheter au prix fort avec la méthanisation. Mmh. Et d'autre part, on va payer aussi tout ce qui est la dépollution, hein, des nappes phréatiques, des plages en Bretagne, etc. Et tout ça, c'est le consommateur qui va le payer, quoi.
Comme quoi, hein. Voilà, il y a vraiment des choses à faire pour inverser la vapeur, végétaliser davantage son alimentation déjà soi-même à la maison, et puis lutter contre ces projets-là, quoi.
Il faut simplement favoriser les porcheries de taille plus raisonnable qui respectent bien l'environnement, et puis il y en a qui vivent. Il y a ici dans notre région, il y a deux porcheries à Bord et à Méterennes. Les éleveurs élèvent leurs cochons. Les nourrissent avec la production agricole qui est la leur, alors que sur le projet de Ringuem, ça va être des soupes animales qui vont venir de Belgique, faites probablement à partir d'OGM, à partir de farines animales, puisqu'en Belgique, les règles sont moins strictes qu'en France, et on a peur aussi de ce que les porcs vont manger, de ce que nous on va manger après quand on aura ces porcs-là dans nos assiettes. Ça risque de pas être terrible. Donc ce qu'il faut favoriser, effectivement, ce sont les petits élevages. Il y a, je répète encore une fois, la Confédération paysanne qui veut développer ce genre d'agriculture, ce genre d'élevage, et ça c'est évidemment les circuits courts, enfin tout ce qu'on dit toujours au niveau de la protection de l'environnement. Et qui n'est malheureusement pas, je le répète encore une fois, parce que j'insiste là-dessus, qui n'est pas du tout l'orientation de Monsieur Le Foll actuellement.
Non, pas du tout. Nous on essaye aussi de pousser sur la végétalisation de l'alimentation, et
tout
puis...
tout à fait. Voilà.
Oui. Et en fait, dans le cadre de votre profession en tant que médecin, est-ce que justement, lorsque vous recevez vos patients, vous les invitez à végétaliser leur alimentation et vous leur parlez un petit peu de ce sujet-là ?
On essaye surtout de leur demander de manger beaucoup moins gras, c'est-à-dire d'éviter les viandes de porc, les charcuteries, etc. Mais surtout d'en prendre moins, mais de meilleure qualité. Moi, je préconise toujours ça, manger moins de viande, certes, mais même si c'est moins de viande, prendre de la viande de qualité, de la viande de préférence bio, enfin de la viande de chez le boucher, là où on sait d'où proviennent les bêtes, c'est surtout là-dessus que j'insiste. Bon, je ne suis pas végétarien, végétalien, mais c'est certain que il faut insister beaucoup au niveau de la population pour diminuer l'alimentation carnée. On mange trop de viande en France.
Ouais, il y aurait vraiment besoin de politiques publiques qui reconnaissent ce fait-là. Mais enfin, comme Stéphane Le Foll pousse avec la FNSEA sur l'industrialisation de l'élevage, effectivement, il a besoin de débouchés. Absolument. Et donc de faire manger encore davantage. Je me demande quand est-ce qu'on va instaurer le steak haché au petit déjeuner. On n'en est pas loin. Est-ce que vous avez des actions en cours ou prévues, besoin de soutien, des pétitions à signer, des manifs, etc.?
On va certainement faire une alerte ouverte au président de la République bientôt, mais actuellement on est un petit peu accaparé par la préparation de notre requête auprès du tribunal administratif de Lille. Hein, le préfet a donné son accord à cette porcherie en avril, et donc on doit déposer une requête rapidement au tribunal administratif. On est surtout accaparé par ce travail-là. Mais c'est certain que si jamais les travaux devaient commencer à Ringuem, on se manifesterait sur le terrain par une manifestation. Mais là, on attend que les travaux commencent. Les travaux, pour l'instant, ne sont pas encore commencés, contrairement au plateau des 1000 vaches à Abbeville, où les militants là-bas sont sur le terrain le plus possible. Bon, nous, pour l'instant, les travaux ne commencent pas. Donc on attend le début de ses travaux pour se manifester bruyamment. Et là, on aura effectivement besoin le soutien de tous les gens qui en France se battent contre ce genre de, d'industrie porcine, ce genre d'élevage intensif. Voilà, qui se battent de leur côté pour les vaches, pour les cochons, pour les poules. Tout le monde doit être associé. Et d'ailleurs, un des objectifs que l'on a, nous, ici à Eve, c'est d'essayer, de, dans le futur, de fédérer toutes ces associations. Au niveau national, faire un pool d'associations qui se battent contre ce, ce genre d'élevage, de manière à mettre nos moyens en commun, nos les connaissances que l'on peut avoir pour aller plus vite au niveau juridique, se fédérer en fait.
Pour oui, aller... ouais, c'était un vœu aussi de Bruno Lapetite de l'association Sève.
Absolument.
Exactement, oui, on en avait longuement parlé justement à l'occasion de la manifestation organisée par Novicène à Paris le 3 mars dernier. Ça avait été amené. Et c'est un projet qu'on espère voir venir.
C'est un projet qui avance hein, tout doucement. Mm-hmm. Bon, chacun travaille, c'est toujours pas facile.
Eh ben oui.
Mm-hmm. Et c'est, quand même, c'est un projet qui avance, il n'y a pas de problème.
Ouais, super. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez rappeler le site internet où on peut aller chercher d'autres informations,
oui,
vous soutenir
remarque, très bonne remarque. Donc vous allez sur le site eves.fr, eves.fr. EVE, c'est l'association Intervillage pour un environnement sain, où on a tous nos dossiers qui sont dessus, toutes les actions que l'on a fait. On a deux petites vidéos très intéressantes pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que les élevages intensifs de porc. Mm-hmm. Deux petites vidéos sur la page d'accueil, un petit onglet de vidéo, où on voit exactement ce que c'est que c'est ce genre d'élevage, la maltraitance, il n'y a pas d'autre mot, la maltraitance que subissent les porcs dans ce genre d'industrie.
Eh bien, merci beaucoup. Jean-Michel. Et puis, bon courage pour la suite du combat. On reste
merci
en contact,
beaucoup.
Bien entendu.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie.
Merci,
au revoir.
Allez, au revoir.
C'est ainsi qu'on sait le saucisson sec, le Vex. En guerre, culinaire, et espère créer des repères pour cette air, pour cette terre, par cette air, persévère, sentir si je manque d'air, sans taire ma colère, que ce soit clair, du lard ou du cochon, pour le porc, ce délire, c'est de l'art, hardcore, c'est la pire mise à mort, c'est trop fort, pas d'accord, hardcore, pas de pardon du lardon, de l'argent, du jambon, des gens cons. Des gens qu'on dit étonnés par la douleur du lard, des gens conditionnés par l'appât du dollar, parle-leur de leur peur, mais ils se prennent pour des saints doux, des gens beaux, non? Des gens bons qui se croient supérieurs, d'ailleurs ils sont super rieurs, moi aussi je le fumais, s'il ne s'agit que de rire. S'il ne s'agit qu'écrire, il ne faut plus pleurer, mais que rire, mais crier, mais crier, mais crier de bon cœur, rions, dérision. Férisette, c'est dément, les rillettes du Mans, ça tripe à la mode de quand? Quand? En ce moment, ou en France, sous France, en French cancan, à chaque instant. Partout, partout de cochonne, sur la côte, la côtelette, la côtelettée dans le sud, la pétanque pointe le cochonnet, point de paix tant que le cochon meurt en le matraquant. En ce moment, sur la route, la choucroute de l'Est, ça choque le pire du transport du bétail qui chauffe des heures, transpire de tous ses pores.
un détail. S'il faut que la cochonaille aille à Bayonne, le chauffeur baille. Bye bye. Vous y êtes en douillette? Dans un camion? Pas dans un car. Dans un car? Quand?
Quand?
À chaque instant. Jusqu'où? Jusqu'au bout d'un noir, au bout d'un tunnel blanc, jusqu'à la mort, jusqu'aux côtes d'Armor. Ou dans les ports, en Bretagne, trop de ports. Pas gai de se rendre à Guérande, à le petit salé. Allez dans le nord, t'Adèle, t'as déliré. Abat-toi alors,
rabat-toi.
Jusqu'où? Jusqu'à l'Échine, par l'aéroport, à le travers l'immonde, comme James Bond. J'aime ce bon dicton, tout est bon dans le cochon. Saucisson, vient du Maghreb. S'il n'y a pas de babe dans ton kebab, ce slam s'adapte à l'islam, qui n'agresse et engraisse que les moutons. Mais je tire bouchon dans mon vin, je mets pas d'eau pour les ovins. Si t'es musulman, tu me saoules, tu mens, pense au pansement. Si je gueule au micro, pour mes pâtés, mon pote sort ses pâtés et naf. Des cochons, canif. Nif. M'en découpe pas un bout pour que je bouffe du nouf. Complètement ouf, pompeuse, je m'étouffe net. Quand elle serre la tête avec la cervelle, ça semble irréel à la délicatessaine. Je reste délicat et zen. Désespère d'une trêve et rêve de passer au dessert. Me trouvera-t-il hyper sévère si je persévère avec le persil? Je me perds s'il avait pris grand soin en étouffer son groin. Plus de cris au moins, celui de la truie ferait du bruit au loin. L'enfer de ces mises bas en série qui détruit. Je l'accuse pas, mais si la truie se meurt, l'altruisme aussi. Stress, bourde. Le cassoulet a aussi des saucisses de Strasbourg. Ça va me saouler à trier les flageolets. J'ai les boules, c'est un boulet. Même le taboulet au poulet. Et le grand méchant loup, méchant le mou, me heurta, herta pas un coup de haine. S'il me tend la couenne, pas de peine pour sa pizza au chorizo. S'il pique sa crise, c'est rigolo. Arrête ton char que tu ris de la charcuterie.
Porcherie, la sagesse émerge du choix végétal. La sagesse émerge du choix végétal.
Si je boude un peu son cochon de lait morcelé, c'est que ce porcelet ciselé et scellé. L'homme est un loup pour l'âme, par la lame qui découpe la vie en deux. La viande, ça coûte de la thune. Alors écoute, la vie est une.
C'était donc Veganesh avec le morceau Hardcore. Donc, on a donc interviewé Jean-Michel Gédrazac, le président de EVE, l'association Intervillage pour un environnement sain, qui a évoqué les conditions d'élevage des cochons, conditions d'élevage et conditions d'abattage, qui sont les mêmes pour tout le monde, hein, bio, pas bio, tous y terminent dans les abattoirs. Donc on va s'intéresser tout d'abord au sort des truies, qui sont de véritables machines à produire des porcelets aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, les futures truies de reproduction, que l'on appelle les cochettes, sont élevées en groupe jusqu'à ce qu'elles soient en production, c'est-à-dire en âge d'être inséminées et de faire des petits vers 8-9 mois. Ensuite, elles alternent les séjours en groupe et en stalle individuelle, mais toujours sur caillebotis et dans des bâtiments fermés. Les inséminations sont artificielles. Un verra ou deux sont parfois gardés sur l'exploitation et leur sperme est prélevé avant d'être inséminé. Les truies sont gardées en stalle individuelle jusqu'à 4 semaines après l'insémination. Pendant le reste de leur gestation et jusqu'à une semaine avant mise bas, elles doivent être placées en groupe, soit pendant 80 jours. Le temps dont elles disposent hors de cage correspond à peu près à la moitié de leur vie en tant que reproductrices. Cette réglementation doit être mise en œuvre depuis le 1er janvier 2013. La France ne respecte pas ses obligations et fin janvier 2013, environ 280 000 truies sont encore bloquées en permanence dans des stalles où elles peuvent uniquement se lever ou s'allonger. On peut observer les stéréotypies qui conduisent ces femelles à ronger les barreaux. Les truies donnent naissance en moyenne à 14 porcelets par mise bas. Elles mettent bas dans des sortes de cages où elles ne peuvent effectuer aucun déplacement sauf se lever ou se coucher. La loi européenne continue d'autoriser ces cages de mise bas. La relation que peut nouer la truie avec ses porcelets est fortement limitée. Les truies sont conduites à l'abattoir, réformées, à environ 3 ans après avoir donné naissance à 5 portées. Nos enquêtes nous ont parfois amenés aux portes des abattoirs. Certaines truies de réforme présentaient des prolapsus importants, une partie des organes qui sortent par l'orifice anal, des boîteries importantes ou étaient dans l'incapacité de se mouvoir seules. Et à ce sujet, vous pouvez donc voir des vidéos sur le site de L214.
Oui, sur le site, vous trouverez donc les vidéos, non seulement sur ces cages dans lesquelles sont enfermées les truies quand elles mettent bas, mais aussi lors de l'insémination, les cochettes, elles restent dans d'autres cages où elles ne peuvent ni avancer ni reculer. Ça, c'est tout en images, ainsi que les porcelets dont on va parler maintenant, qui naissent donc dans ces cages de maternité, où le contact avec leur mère est limité par la configuration des lieux qui empêche la mère de bouger. Les porcelets sont rapidement sevrés. La réglementation impose de ne pas les sevrer avant 28 jours, tout en posant une dérogation à 21 jours, dont nombre d'éleveurs se saisissent. Pour mémoire, l'âge naturel de sevrage des porcelets se situe vers 3 à 4 mois. En France, dès leur plus jeune âge, les mâles sont castrés sans anesthésie. En effet, leur chair est susceptible de dégager en cours de cuisson une odeur jugée désagréable par le consommateur. Bien que cette odeur ne se développe que chez 3% des verrats, en France, on castre à vif la totalité des porcs mâles conduits à l'engraissement. D'après l'EFSA, qui est une autorité européenne, c'est une opération extrêmement douloureuse, même lorsqu'elle est pratiquée dans les premiers jours de vie des porcelets. Là aussi, on peut vous inviter à regarder des vidéos si vous ne savez pas en quoi consiste cette opération. Les cris des porcelets donnent la chair de poule. Dans cette première semaine de vie, les porcelets subiront également le meulage des dents, la coupe de leur queue. Et ces opérations douloureuses sont elles aussi quasi systématiques en France. Dans une portée, il y a des porcelets qui sont dits chétifs à la naissance. Ils sont considérés souvent comme non viables et puis de toute façon la truie a souvent moins de mamelles que ce qu'elle a de petits et donc les éleveurs pratiquent une entre guillemets euthanasie par assommage contre un mur ou à l'aide d'une masse qui, bien qu'illégale, est couramment pratiquée. Là, on peut aussi vous inviter à voir une vidéo qui a été tournée par Animal Equality l'an dernier ou l'année d'avant où on voit l'euthanasie à la ferme, alors non seulement pour des porcelets, mais ils ont aussi pris dans une ferme, justement dans une ferme de qualité, comme le qualifierait la plupart des gens, puisque les animaux sont élevés sur paille, etc. Et on voit la truie qui est mise à mort comme ça sur l'élevage, quoi. Voilà. Après le sevrage, les porcelets, eux, passent 5 semaines en post-sevrage où ils s'habituent progressivement à l'alimentation non lactée imposée. Ils sont toujours sur caillebotis et se mélangent entre fratries. L'engraissement, quant à lui, ensuite, dure 6 semaines. Là aussi, c'est sur du caillebotis. Le caillebotis, pour ceux qui voient pas bien et qui ne peuvent pas aller voir les vidéos, c'est des sols qui sont ajourés, c'est-à-dire du sol avec des fentes de façon à laisser passer les déjections des animaux. La législation, elle impose des matières manipulables dans les cases, des aménagements. Et en fait, ils sont bien souvent absents, même s'ils sont minimaux. Par exemple, il faudrait mettre de la paille, du foin, du bois. Dans certains élevages, on a vu un pneu, on a vu des balles, mais enfin, ça reste encore vraiment limité. On peut aussi parler de la mortalité qui est assez importante dans les élevages porcins. On peut considérer que 20% des porcs sont morts entre la naissance et l'âge de départ pour l'abattoir. Et pourtant, les porcins consomment une grosse partie des antibiotiques vétérinaires avec un taux d'exposition qui était de 15,85% par exemple en 2008, ce qui place les cochons au second rang derrière les lapins pour la consommation d'antibiotiques. Comme on a parlé tout à l'heure, Pascal, pour les coches qui vont à l'abattoir, les coches, donc les truies de reproduction, les cochons, eux aussi, sont transportés parfois sur de longues distances vers les abattoirs. Certains d'entre eux meurent en cours de transport. Quant aux conditions d'abattage elles-mêmes, ils sont souvent étourdis par choc électrique avant d'être suspendus puis saignés. En France, ça représente 25 millions de porcs qui sont ainsi tués. Maintenant, Pascal, toi, tu vas nous parler d'une autre histoire, une histoire drôlement touchante d'un éleveur.
Oui, en effet, c'est l'histoire de Lo Yun-sian, qui était éleveur de cochons à Taïwan. Il dédie maintenant sa vie au végétarisme et à la protection des animaux. En fait, c'est en envoyant l'un de ses cochons à l'abattoir qu'il a un jour pris conscience de la portée de ses actes et décidé de changer sa vie. Donc, éleveur de cochons à Nouveau Taipei, Lo Yun-sian a transformé son élevage en sanctuaire après avoir lu la tristesse dans le regard d'un cochon qu'il envoyait à l'abattoir. Devenu végétarien et engagé dans la défense des animaux, il affirme désormais « les animaux sont des amis, pas de la nourriture ». Afin de couvrir les frais de sa ferme devenue refuge, Lo enchaîne diverses activités comme chauffeur de camion, vendeur sur les marchés ou vente de beignets sur Internet. Sur son temps libre, Lo s'investit dans la promotion du végétarisme, se rend dans les écoles et donne des conférences au sein de la Tsuchi Foundation, la plus grande association caritative de Chine. Malgré les critiques quant à sa décision d'abandonner le métier d'éleveur, Lo estime qu'il a fait le bon choix, même si cela devait le laisser sans le sou. Il explique qu'avant ce bouleversement, son activité était uniquement guidée par le profit tiré de ce grand élevage familial hérité de son grand-père. Au sommet de son activité, l'exploitation pouvait contenir jusqu'à 500 cochons et générer des revenus lui conférant un train de vie très confortable. Il explique que c'est un cochon qui a un jour donc modifié sa perception. Ce jour-là, le camion de l'abattoir était venu chercher plusieurs porcelets qui s'étaient mis alors à hurler. À l'exception d'un porcelet, resté silencieux alors que je le prenais entre mes mains, dit-il, il me regarda droit dans les yeux, comme pour me demander « Mais pourquoi me fais-tu cela ?» Ce regard m'a anéanti et m'a tenu en éveil toute la nuit. Le lendemain, Lo s'est précipité à l'abattoir pour acheter ses animaux, mais il était trop tard. Je suis alors devenu végétarien et j'ai coupé toute coopération avec les abattoirs. Quelques années ont passé et seuls 40 cochons vivent encore à la ferme. Les autres s'étant éteints de vieillesse ou de maladie, mais Lo continue de se consacrer entièrement à ses compagnons. Il commence sa journée à 4h du matin et entame une tournée des restaurants végétariens pour collecter leurs restes qu'il cuisine avant de les offrir à ses protégés. Lo nettoie ensuite les enclos et joue avec les cochons. Peint sur son camion, le slogan « Les animaux sont des amis, pas de la nourriture » l'accompagne partout où il se rend maintenant.
Eh bien ça c'est une jolie histoire, je vais vous en raconter une autre qui s'est passée elle en France. Un élevage qui a été signalé à plusieurs associations de protection animale qui sont du coup qui se sont renseignées sur cet élevage. Les images sont sur le site internet bien sûr l214.com. En fait, si vous avez déjà vu des élevages de cochons, celui-ci est encore plus sombre. Les animaux étaient maintenus dans des enclos et on pouvait voir qu'il y avait une épaisseur de 3 à 5 cm d'excréments recouvrant le sol. On s'est fourni avec l'association L214 le rapport qui avait été établi par les services vétérinaires au mois d'août l'année dernière, août 2012. Ce rapport des services vétérinaires concluait à des non-conformités majeures sur cet élevage, mais au lieu de le fermer, l'éleveur a juste eu une lettre avec demande de se mettre aux normes. Voyant que la situation n'évoluait pas énormément, on a révélé des images de cet élevage, on a lancé une pétition qui a réuni en quelques jours 26 000 signatures. Et en fait, les mises aux normes demandées avec insistance ce coup-ci à l'éleveur ont conduit le groupement à fermer cet élevage. Et donc c'est encore l'histoire d'une fermeture moins heureuse que celle que celle de que vient de raconter Pascal. J'ai pas retenu le prénom, c'est trop compliqué.
Lo Hung Tien,
mais qui montre que bah quand on s'intéresse de près aux conditions d'élevage des animaux, il est parfois possible de faire fermer au moins les pires élevages par rapport à ça. C'est un cas isolé dans le sens où on n'a pas des images de l'ensemble des élevages de cochons, mais tout de même c'est bien représentatif de la misère que peuvent subir ces animaux derrière les portes fermées de leurs élevages. On a aussi quelques articles à vous proposer sur l'intelligence des cochons, puisque les cochons sont souvent traités d'animaux bêtes, hein. Le mot bête d'ailleurs souvent est péjoratif dans nos bouches. Et il y a eu des études, c'est l'expérimentation animale, pas top, mais enfin ça montre, autant s'en servir dans un sens positif, ça montre que les animaux ne sont pas si stupides qu'on voudrait bien le croire pour pouvoir continuer de les manger.
Oui, en fait, selon une étude effectuée par Donald Brown de l'Université de Cambridge, l'animal posséderait un certain degré de conscience de lui, puisqu'il peut se reconnaître dans un miroir. 8 porcs ont été donc confrontés pendant plus de 5 heures à leur reflet dans une glace. Ils ont tout d'abord cru faire face à un adversaire, ils ont été jusqu'à charger leur protection. Petit à petit, ils se sont rendus compte que leur reflet répondait à leurs mouvements. Broom a alors évalué que les animaux avaient pris conscience de leur propre présence. Un état de conscience que l'être humain ne développe qu'à partir de l'âge de 12 à 18 mois. Lors de la deuxième étape de l'étude, qu'un enfant de 3 ans peinerait à réussir, les bêtes ont été confrontées au reflet d'une mangeoire. Ayant préalablement pu se familiariser avec le miroir, elles ne sont pas tombées dans le panneau. Il leur a fallu moins de 30 secondes pour découvrir la supercherie et se diriger vers la vraie mangeoire. En revanche, les cochons qui n'ont pas été préparés à cette épreuve l'ont manqué. Preuve qu'ils sont capables d'évaluer une situation et d'adapter leur comportement. À noter, puisque les porcs ont un odorat fort développé, l'équipe avait pris soin d'installer un ventilateur au-dessus de la nourriture pour ne pas fausser les tests. Enfin, durant la troisième phase, une marque a été faite sur le front des cochons. Mais contrairement aux chimpanzés, à l'orang-outan et aux dauphins, le cochon n'a pas tenté de l'enlever. Un scientifique a émis l'hypothèse que si les cochons n'ont pas réagi, c'est parce qu'ils sont habitués à être marqués par l'homme durant leur élevage. Toujours est-il que cette surprenante étude va dans le sens de recherches précédemment effectuées à l'Université d'État de Pennsylvanie. Les cochons avaient cette fois été placés devant, devinez quoi, un jeu vidéo. Manette en bouche, ils se sont immédiatement familiarisés avec cet univers virtuel où on leur demandait de diriger une balle sur la partie bleue de l'écran en échange d'une récompense comestible. À ce petit jeu, certains chimpanzés ont été plus longs à la détente. Le même test avait été fait à l'aide d'un chien et il lui avait fallu un an d'apprentissage avec l'aide de son dresseur avant de pouvoir maîtriser la stratégie. Cette intelligence se remarque donc également dans la manière de vivre des cochons, en dépit de l'image de saleté qui lui est ordinairement associée. Cet animal très sociable délimite deux espaces distincts dans son enclos. D'un côté, les toilettes et de l'autre, la salle à manger. Une tête bien faite et bien remplie donc, car le cerveau du plus malin des animaux de ferme est structurellement proche du nôtre, même s'il est nettement plus petit. D'ailleurs, à y regarder d'un peu plus près, les similitudes entre le cochon domestiqué il y a près de 10 000 ans et l'homme sont troublantes. Outre le fait qu'il partage avec nous 95% d'ADN, son anatomie est réputée être la plus proche de la nôtre. On fait donc malheureusement souvent appel à lui en médecine. Sa peau, la seule comme avec celle de l'homme sujette aux coups de soleil, est notamment utilisée pour les greffes et son insuline pour le diabète. Et les grandes analogies de deux systèmes digestifs font l'objet de nombreuses recherches. En France, l'INRA étudie sur le cochon aussi bien l'obésité humaine que la nutrition des nouveau-nés en sous-poids. On sait même greffer les organes porcins sur l'homme. Une truie peut être mère porteuse d'un embryon humain le temps d'une opération chirurgicale, comme cela a été le cas au Canada. À l'intérieur, c'est tout pareil, rappelle l'historien français Michel Pastoureau, spécialiste des couleurs, des symboles et des animaux, auteur du livre « Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé ». Selon lui, le mélange d'attirance et de répugnance que nous portons au cochon vient du fait que nous sommes très proches, certainement trop. Même si l'on commence à le regarder avec un œil nouveau, on continue en effet à le voir davantage comme une pièce de charcuterie. Aussi intelligent soit-il, le cochon semble donc être voué à être plus apprécié après sa mort que de son vivant. Une preuve supplémentaire nous est offerte par les scientifiques de Cambridge qui, fort des résultats de leur étude, préconisent une stimulation cérébrale dans les élevages pour améliorer la qualité de la viande. Tout reste encore à faire pour leur rendre leur place qui leur revient de droit.
Comme l'ensemble des animaux, d'ailleurs, on peut le souligner. Je remercie Facebook puisque une partie de ces informations ont été réunies grâce à des articles qui ont été écrits par des internautes sur Facebook sur cette partie sur l'intelligence des animaux. On peut élargir la question des cochons. Donc, on se rend bien compte dès qu'on s'intéresse aux animaux, qui sont en fait bien plus intelligents qu'on peut l'imaginer, que nos intelligences, elles peuvent être différentes et néanmoins, elles ne sont pas négligeables. Est-ce que ça sert bien de dire qui est le plus, qui est le moins? Ça n'a vraiment aucune importance. Devant la souffrance, devant le désir de vivre, on est tous égaux. Et on peut vous inviter à venir manifester le 15 juin pour justement essayer de faire sauter ces verrous qui font qu'on considère aujourd'hui les animaux comme de la nourriture, alors qu'on devrait simplement les considérer comme des cohabitants de notre planète et essayer de se diriger plutôt vers une société sans abattoir plutôt que vers une société qui tue à l'appel les animaux. Pascal, on va rapidement, très très rapidement, il nous reste une minute, parler de l'agenda que vous pouvez retrouver sur l214.com dans Agir Agenda.
Oui, en effet, nous faisons des actions devant les Monoprix pour que Monoprix enlève de ses rayons les œufs de batterie. Par exemple, le mercredi 29 mai, il y a une distribution de tracts, ainsi que jeudi. Et vendredi 31 mai, donc vous pouvez retrouver ces informations sur l'agenda de L214.
Samedi 1er juin, il y aura la manifestation contre un élevage de visons à Emani. Il y a un car au départ de Paris, peut-être est-il plein, mais rien ne vous empêche de rejoindre cette manifestation dans le Doubs. Le samedi 8 juin, le Vecfest à Paris, qui sera place de Joachim Dubélé de 13h à 19h. L214, Pascal y sera et y tiendra un stand. Oui. Le 15 juin, donc la marche pour la fermeture des abattoirs, qui aura lieu Paris et Toulouse, et aussi à l'international, Toronto, etc. Et puis, le jeudi 20 juin, il y aura le pique-nique de jeudi veggie. On reviendra la semaine prochaine, le mois prochain, sur le samedi 29 juin, où il y aura la chaîne humaine contre le centre d'élevage des souches. Et je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine émission sera sur le thème de l'expérimentation animale. Je vous dis donc à dans un mois avec Pascal.
À dans un mois.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
C'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire que j'ai un drôle de métier, quand vous partez, je m'en retourne, tantôt de nuit, tantôt de matinée, les machines, il faut que ça tourne. Je ne vois pas tous les jours mes enfants, mais faut pas se plaindre, allez, on va de l'avant. Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire qu'on sait plus bien où on en est, à quel saint vouer ses prières, mais nous du moins, on a la liberté, entrez donc prendre un petit verre. J'ai là un petit blanc qui est pas piqué, nous avons des amis dans les corbières. Non, non, voisin, je ne peux pas, ça sera pour une autre fois, le jour de l'an, ou bien le jour des rois. Au revoir, voisin, on se reverra à Pâques ou à Saint-Nicolas, dans ce bas monde, ou bien dans l'au-delà.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM.
IFM sur 98 FM.
Beaucoup de gens ne savent pas que le cancer peut aussi toucher les enfants. Comme moi, chaque année, un enfant sur 440 est atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. C'est grâce à la recherche que nous pourrons guérir de plus en plus d'enfants. En faisant un don aux chercheurs de Gustave Roussy, vous aidez directement la recherche sur les cancers de l'enfant. Faites votre don sur www.gustavecontrelecancer.fr. Merci beaucoup.
Bonjour, c'est Bob Garcia sur IDFM 98. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches de 20h30 à 21h30 dans Jazz Actu. Une heure consacrée à l'actualité de la planète jazz. Au programme, des interviews exclusives, des coups de cœur, les concerts à ne pas rater, mais surtout de la musique. Les meilleurs morceaux de jazz sélectionnés pour vous, dans tous les styles et pour tous les goûts. Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes, c'est tous les dimanches de 20h30 à 21h30 sur IDFM 98.
24h sur 24, 7 jours sur 7, 98 FM, IDFM, Radio Anguin.